par la mitzvah du Kohen Gadol, la mitzvah d'Aaron, d'allumer les Nérotes de la menorah dans le Beth Amikdash. Tous les soirs, on nettoyait la menorah, on enlevait toutes les scories de ce qui avait brûlé le groupe d'avant, et on rechargeait, on remettait de l'huile d'olive, on remettait des mèches, et on allumait la menorah, cette fameuse menorah, avec sept branches. C'était le travail du Kohen Gadol, tous les soirs, d'allumer les Nérotes de la menorah. Donc c'est une mitzvah qui est donnée à Aaron. C'est un peu la suite de ce qu'on a dit dans la parasha de la semaine dernière. La semaine dernière, on a donné les tâches de chacun, par exemple, tâches d'Elohim, dans le transport du Mishkan contre le etc. Et maintenant, on va énoncer la tâche particulière de Aaron à Cohen, donc, et finalement, après lui, donc, aussi du Cohen Gadol. Donc ça, c'est ça la situation. Ensuite, il va y avoir une purification des Lévites. C'est une façon, je vois si ma femme va arriver à ouvrir, on va voir, depuis le bureau, là, sur le numéro 2. Donc, il va falloir purifier les huiles pour les mettre en service. Ça consiste à réussir les raser de la tête aux pieds. Ça va donner lieu à de la part de la femme de Korah. Ça va alimenter la révolte de Korah contre Moshe Rabbeinu parce que quand Korah, qui était un lévite, s'est retrouvé un peu de présence quand un lévite s'est retrouvé complètement rasé, c'était vraiment pas rasé, la tête aux pieds. Donc il est rentré chez lui, sa femme elle lui a dit t'as bonne mine, et alors il a dit mais il s'est fait à lui-même, moi je fais aussi puisque il est lévite. Alors elle a dit, il est même prêt à se faire à lui, l'essentiel c'est qu'il te fasse à toi. Donc ça c'était le discours de Madame Korah. Donc ça va alimenter la révolte de Korah. Et ensuite la Torah va nous reparler de l'échange entre les Lévites et les Prorotes, puisque les Prorotes, les premiers-nés, étaient normalement ceux qui auraient dû assurer la avoda, le service au Mishkan, disons, et qu'ils ont été disqualifiés en faisant le veau d'or, et donc ils sont remplacés par les Lévites. Alors il y a le fameux compte, il n'y avait pas exactement le même nombre de Lévites que de Prorotes, donc il y avait trop de Prorotes, et donc on n'a pas pu remplacer chaque Bechor par un Lévite, donc ça a donné lieu un rattrapage financier, c'est-à-dire on a dû donner au Lévim un peu plus d'argent, enfin de l'argent, pour remplacer pour compenser les 273 Prorotes qu'il y avait en trop. Bon, ça c'est allé, voilà, c'est de ça qu'on parle. Ensuite, on parle de Pessah, en particulier de Pessah Sheni, le Pessah qui a été réclamé par ceux qui étaient impurs et qui n'ont pas pu faire le Corban Pessah. Ils ont dit, Lama Nigara, pourquoi est-ce que nous on devrait avoir moins de pas avoir le mérite du Corban Pessah parce que, par exemple, nous sommes occupés d'enterrer ceux qui devaient être enterrés. Alors on leur a donné un mois après Pessah, la nuit du 14 au 15, Je pas Nissan, mais IA, et ça, je t'ai dit. Deuxième possibilité de faire le Coran Pessah, mais cette fois-ci, sans qu'il y ait 7 jours d'interdit de Hametz. Ils pouvaient manger, ils ont mangé le Coran Pessah avec de la matzah, mais sur la table, ils pouvaient aussi avoir du pain. Il n'y avait pas d'interdit de Hametz, simplement le Coran Pessah. Ensuite, ils reçoivent la mitzvah de fabriquer des chatzotrot, les fameuses trompettes. Et ensuite, on nous parle va voir, bon, il va y avoir un peu de tirage. Ensuite, il y a le discours de Moshe Rabbeinu pour essayer de convaincre son beau-père, Yitro, de rester avec les Bnei Israël, mais Yitro va pas être d'accord, il va repartir. Comme il dit, je vais repartir pour amener mon peuple, pour amener à mon peuple les valeurs de la Torah. Ils ne sont pas convertis, mais ils vont être très proches, c'est les Kenim. D'accord? On a une femme célèbre dans les Kenim, c'est Yaël. La Yaël qui a tué Sisra, hein? Les Eshet Remer Kenim, la femme d'un Kenim. Les Kenim, c'était les voisins d'Amalek. On leur a dit, tirez-vous, parce que quand on va attaquer Amalek, il risque d'y avoir des balles perdues. Donc, on ne veut pas que vous preniez les balles perdues, donc mettez-vous à l'abri. Ensuite, il y a le petit, les deux psukim qui sont le Vaïvin Soharon, qui sont entre les deux nouns à l'envers. Ils sont considérés comme un sépère. Et puis commence ensuite l'histoire des mitonnim, de ceux qui réclament. Ils réclament, ils vont réclamer. Et c'est le commencement de la tragédie, en quelque sorte. Alors, on va voir Rachid, mais on va voir aussi le Hamec d'Avraham, comme le Hamec d'Avraham dit cette affaire-là. Donc, je vous invite à prendre le chapitre 10, verset 29, je crois. On va voir si c'est vrai. Ouais. Bon, ça, c'était l'histoire de Yitro. Alors, ce qui est important, c'est que dans le discours l'argument que mon cher Abino a développé pour essayer de convaincre Yitro, donc, il y a un Rashi, qui justement sur ce verset. Ben, regardez celui qui. Voilà. Dans le verset, c'est marqué que, pardon, Moshe Rabbeinu lui a dit, Nosim anachnu el hamakom asher amar Hashem, oto eten lachem, lecha itanu, veitanu lach, ki Hashem libertov al Israël. Moshe Rabbeinu lui a dit, nous sommes en chemin pour aller à l'endroit qu'Hashem a dit qu'il allait nous donner, c'est-à-dire, tout près d'Eretz Israël, ils sont tout proches d'Eretz Israël, on va voir. Viens avec nous et nous te ferons du bien. Puisque Hachem a dit qu'il allait faire du bien au clan d'Israël, viens avec nous, tu peux en bénéficier. Donc il n'a pas voulu y aller. Voilà. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce que Rashi ramène justement sur ce verset de Simanachno, nous sommes en chemin, en quelque sorte. Alors, Rashi dit. Rashi dit. sur le verset Nossi Manachnu et Lamakom, Rashi dit Miyad. Ad Shlosha Yamim Anu Nichnasim Laharetz. Donc il faut bien comprendre, on est à 3 jours de marche de Eretz Israël. Ils sont pratiquement arrivés. Alors, et Rashi précise, chez le Massa, Zé, Arishon, Nassou, Almenat, Kukanes, Eretz Israël. Alors, là, quand ils se mettent en route, d'où est-ce qu'ils se mettent en route, vous vous souvenez, ils sont partis du Sinaï. Ils étaient au pied du Sinaï, dans le désert du Sinaï, et il y a eu 3 jours de marche. Ils ont fait de façon continue. Et Hachem va dire, je ne vous ai pas laissé de repos, vous avez fait 3 jours de marche, parce que je pensais que vous étiez très intéressés à arriver le plus vite possible en Israël. Donc je vous ai aidé avec une certaine erreur. En fait, ils ont marché 3 jours, mais ils ont couvert un peu plus que 3 jours. Mais ils étaient à 3 jours de marche de Israël. Et là, chez Chatou, le Mithon de Nîmes. Mais il y a eu la faute de ces gens qui se plaignent. On va parler maintenant. Bipnema, Shataf Moshe Atzmo Imaen, Shadaï Loniza Xera, là, Pesavou, chez Onirnas. On en parle entre parenthèses, quand Moshe Rabbeinu dit, Nossim Anachnu, il s'est inclus dans les Bnei Israël. Or, en vérité, Moshe Rabbeinu, il avait déjà reçu un avertissement d'Hachem que lui n'entrerait pas en Eretz Israël. Mais plusieurs fois, Moshe Rabbeinu a pensé que puisque Hachem a pardonné au Bnei Israël, il va lui pardonner à lui aussi. Et qu'il va admettre. Mais déjà, quand Moshe Rabbeinu n'a pas voulu, quand il a dit que l'Israël n'a pas le croire, etc., et qu'il ne voulait pas aller sortir les Bnei Israël de Mitzrayim pour des raisons dont on a déjà parlé, et il a discuté pendant 8 jours avec Hachem. En plus d'une semaine, il a argumenté, il ne voulait pas y aller. Finalement, il s'est laissé convaincre, mais avec une sanction, tu ne rentreras pas en Eretz. À plusieurs reprises, Hachem lui a dit, tu ne rentreras pas. Mais y compris à la dernière, la Xéra, la grande Xéra, c'est la Xéra, le décret à partir de Meriva. Quand il a frappé le rocher, alors que Hachem lui avait dit de parler au rocher, pour que le rocher donne de l'eau, puis il l'a frappé. Hachem lui a dit, pour cette raison, toi et Aaron, vous n'entrerez pas en Eretz. Et même après ça, Moshe Rabbeinu pensait, il espérait, Hachem lui pardonnerait. C'est pour ça qu'il a négocié jusqu'à la fin. Mais Hachem ne lui a pas pardonné. Alors on donne des explications pour lesquelles, sur le pourquoi Moshe Rabbeinu devait être enterré en dehors d'Eretz Israël. On ne va pas entrer, ce n'est pas un sujet ce soir. Alors, la très importante, c'est qu'on est à 3 jours. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a fait 40 ans dans le désert? C'est à cause de ces mythologies, à cause alors, traditionnellement, on dit que c'est à cause des Maraglis, c'est à cause des explorateurs. Mais si vous voulez, les explorateurs, c'est seulement la phase ultime. C'est quelque chose qui commence ici avec les mythonémies, avec ces gens qui se plaignent. Alors, on avance et vous mettez au début du chapitre 11, je vais vous souvenir plus loin, au début du chapitre Yudalef, après l'histoire des Nouns à l'envers, Vaïri Ha'am, que mythonémie ra, באוזני השם, וישמע השם, ויחר אפו, ותיבר בם, אש השם, ותאכל בקצה המחנה. On va s'éparer. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Les Bnei Israël, ils sont que mitonnelim. Alors, je pense peut-être que vous connaissez, mais juste pour mémoire, je lis, on va relire Rashi quand même. Rashi dit, El mitonnelim, donc c'est des gens qui se plaignent. Mitonnelim, c'est des gens qui se plaignent. Se plaindre, C'est une occupation chez les Juifs assez fréquente. En yiddish, on dit même, on voudrait bien se plaindre, mais on ne peut pas. C'est-à-dire, on voit bien, malheureusement, on ne peut pas se plaindre. C'est ennuyeux. Le Rashi dit, Emitonenim Alila. Alors, le mot Alila, ça veut dire prétexte. En parenthèse, c'est le mot qu'on utilise quand on parle de ce qui s'appelle Alilot Dam. C'est les accusations de meurtre rituel que les Goïms ont formulé de façon constante contre Israël durant notre histoire. La dernière accusation de meurtre rituel moderne, c'était au début des années 1900. Bon, c'était le procès Baylis. Il y a eu l'homme de Kiev, ça s'appelle. Il y a un bouquin de Bernard Malamud, un grand auteur américain, sur ce procès. Cette histoire, c'est vraiment ancien. Je crois qu'il y a un film. Il doit s'appeler L'homme de Kiev, mais je ne suis pas sûr. Parce que le procès, il était à Kiev. Alors là-bas, c'était systématique. Les goïms, ils tuaient ou ils découvraient un cadavre d'un gosse, en général avant Pessah. Ensuite, on nous accusait d'avoir tué un enfant pour récupérer le sang pour cuire les matzot avec du sang chrétien. C'était ça l'accusation standard tout le Moyen Âge jusqu'en 1900.
1946, la dernière fois.
C'est 46. Hein?
À Lodz.
Mais le pardon où?
À Lodz, le dernier meurtre, la dernière affaire de
Ah,
Zvon.
Lodz.
À Lodz,
Très
là.
bien. Oui, c'est ça, mais c'est en Europe.
1946.
C'est en 1900.
C'est
Hein?
l'affaire de Gebadné, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire de Kiev.
Hop, j'y avais.
C'est
Hop, bon.
Gebadné, non?
Et c'était Baylis le dernier. Enfin, peu importe.
Oui, c'est ça. Et ça, c'est arrivé en 1911 à Kiev, l'histoire de l'homme de Kiev, là.
Baylis.
Oui.
Alors, ils se plaignent. Les plaintes, ici, Rachid dit, c'est une alila. Alila, c'est un prétexte. Ça veut dire que les plaintes des Bnei Israël, comme dit Rachid, me vakshim alila, ech bifrosh, me aharei hamakom. Ils cherchaient un prétexte pour justifier de se désengager des engagements qu'ils avaient pris au Sinaï. Au Sinaï, ils ont dit à Hachem, là, c'est le chemin, on va faire ce que tu nous dis. Et ils ont cherché maintenant, là, on est pas loin, quoi. Et après le Sinaï, très très peu de temps après, on n'est pas des années après, hein, quelques temps après, et voilà que ils cherchent, dit Rashi, un prétexte pour pouvoir dire que ben non, on n'est plus d'accord. On veut pas suivre Hachem. Il y a une dracha qui est faite dans le passage, c'est marqué que les Bnei Israël, quand ils sont partis du Sinaï, c'est marqué, ils sont partis, mais Har Hachem, sont partis de la montagne d'Hachem. Et la dracha, elle est, mais Aharei Hachem. Ils sont partis de Aharei Hachem, ils étaient en train de suivre Hachem, et ils ont quitté cette situation-là, ils ne voulaient plus suivre à peur jour. Et on dit qu'ils sont partis du Sinaï, et Tinok Aboréa Rubet Asefer. Ils sont partis en courant du Sinaï, comme un enfant qui à la sortie de l'école, court pour rentrer chez lui, de peur que la maîtresse le rappelle qu'il y a encore quelque chose à faire. Donc, on dit que les Bnei Israël, ils sont partis très très vite parce que des fois qu'Hachem leur donnerait encore un peu plus de mitzvot. Non, non, ça fait, on a déjà fait le plein, quoi. Donc, on a affaire à des gens qui essayent de se défiler. Ils ont pris un engagement et ils veulent ne pas le tenir. Ils cherchent un prétexte. Qu'est-ce qu'on pourrait bien dire qui justifie qu'on ne veut plus continuer? Et Rachid rapporte comme exemple, il rapporte un problème avec Shimshon, avec Shimshon, c'est Samson, quoi. Shimshon, c'est un des juges, un des Shoftim. Après la période de Yoshua, il y a eu une longue période des juges, avant la période des rois. Et un des juges en question, un des chefs, c'était Shimshon. Et là-bas, on parle aussi de prétexte. Et le Passouk dit que Miltonim ra beozne Hashem. Rab et Osniachem, ils se plaignent et c'est mal, c'est vu très très mal aux oreilles d'Hachem. Hachem le prend très mal, cette plainte. Toanashi Ra'a et Osniachem. Cette démarche-là, c'est quelque chose qui aux yeux d'Hachem est très mauvaise. Ra, c'est le mal. Maintenant, la forme du mal, c'est ça. Le mal, donc le clan d'Israël confronté au mal, c'est quoi le mal? C'est se plaindre, chercher un prétexte pour se défiler sous forme de plainte. Chez Mitkavnim, chez Tavor de Osno, Veyaknit, et comment est-ce qu'ils veulent, avec des plaintes, ils vont pas, s'ils se plaignent, ils vont pas être avec ça dispensés d'honorer leurs engagements. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils veulent qu'Hachem, il entende leur plainte, et qu'Hachem se mette en colère contre eux, et que lui, il décide de les disqualifier. Et si c'est lui qui les disqualifie, voilà, on n'est plus obligé de suivre, puisqu'Hachem lui-même, il nous a envoyés. Donc, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas, eux, de se défiler, de rompre l'accord qu'il y a entre Hachem et le clan d'Israël, mais ils veulent provoquer Hachem de telle sorte que ce soit lui qui les renvoie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? La première plainte, c'est Amrou, oïlanu, kamal avatlu, baderech hazeh shlosha yamin, blo nachnu me inuyanen aderech. Malheur à nous, se plaignent. Pendant 3 jours, on a marché sans s'arrêter. Et on a souffert pendant 3 jours, 3 jours de chemin. Donc voilà, ils se plaignent. Pendant ces 3 jours-là, ils ont, c'est des jours où ils ont vécu dans le miracle. Faut bien savoir, se rappeler que quand les Bnei Israël circulaient dans le désert, tout était aplani. D'accord? Ça veut dire que il n'y avait absolument aucun obstacle. Ils étaient protégés du soleil, par les nuées, etc. Tout était arrangé. C'était presque une promenade de santé. Seulement, effectivement, ils ne se sont pas arrêtés. Et alors, sur cette plainte-là, Vaishma Hashem, ça a réussi, Hashem a entendu, Vaicha Apo, et la colère d'Hashem s'est déchaînée, Vativar Bam et Shachem. Et le feu d'Hashem a brûlé en eux, c'est-à-dire parmi les pays d'Israël. Vatochal, et le feu, il a détruit l'Iktse Hamachane, à l'extrémité du camp. C'est pas tout le camp, mais il y a un endroit qui s'appelle l'extrémité du camp, Iktse Hamachane. Alors, on va voir parce qu'il y a plusieurs explications de ce que c'était exactement. Mais en tout cas, la colère d'Hachem s'est déchaînée. Il y a eu du feu d'Hachem, du feu destructeur, a priori. Rachid dit, Vaïchar Apo, Hachem s'est mis en colère. Pourquoi il s'est mis en colère? Parce qu'il a dit, Ani haïti mitkaven le tovatchem. Moi, si je vous ai aidé à marcher pendant 3 jours, c'était pour votre bien. J'étais quand sous l'arrêt, miyad, pour que vous puissiez entrer immédiatement en Eretz Israël. Je sais que vous avez envie d'entrer en Eretz Israël. D'accord? Vous disiez, vous avez envie. Alors, j'ai fait ce qu'il fallait pour que vous puissiez entrer au plus tôt. Et vous, le bienfait que je vous ai fait, que je vous ai donné, en fait, le manifester, vous le retournez complètement. C'est ça la colère d'Hachem. C'est pas que vous n'avez pas tout compris. Au contraire, vous avez utilisé ce que je vous ai fait de bien et vous l'avez interprété négativement. Ça veut dire qu'effectivement, il y avait la possibilité de l'interpréter de deux manières. Alors ça, c'est important que l'interprétation, leur interprétation, c'est une interprétation possible. Si vous voulez, d'une certaine manière, l'homme est toujours en train de devoir choisir. Et son choix se fait en interprétant ce qui arrive. Alors des fois, c'est facile d'interpréter positivement. Et puis, des fois, c'est difficile. Alors, vous savez bien, quand les miracles vont arriver, quand les explorateurs, qu'est-ce qui va se passer? Je donne juste un exemple, on en parlera la semaine prochaine. C'est le parachat de la semaine prochaine, pas cette semaine. Mais, quand ils arrivent, partout où ils arrivaient, il y avait des enterrements. Alors, qu'est-ce que vous interprétez? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Eretz Yochel et Yochmer. C'est un pays qui bouffe ses habitants. Partout, il y a des enterrements. C'est un pays où les gens meurent. C'est vrai qu'ils sont très grands, etc., mais ils ne vivent pas très longtemps. Et partout où on allait, il y avait des enterrements. Et c'est quoi l'interprétation positive des enterrements? C'est vrai que ce n'est pas du tout évident. Si les Razan ne nous avaient pas dit comment il fallait l'interpréter, je ne sais pas. Qui d'entre nous aurait, on aurait dit non, c'est sûrement bien, mais on n'aurait pas su dire quoi. Une des explications que j'ai entendues, c'est que les Israël qui étaient là, c'était des étrangers. Et partout où ils allaient arriver, il y a une bande de 12 explorateurs qui sont en promenade là. Ils vont passer, on les verra arriver dans tous les villages. Et tout le monde verra que c'est des étrangers. Et bon, ils ne pourront pas faire leur travail, voir vraiment comment ça vit, etc. Ou bien les gens ne laisseront pas voir s'ils veulent voir, ou ils pourraient risquer leur vie et tout. Alors, qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il a fait qu'il y ait l'enterrement. Qu'est-ce qui se passe dans un enterrement? Dans un enterrement, il y a un brassage de population. Il y a des gens qui viennent et qui ne sont pas de l'endroit. La famille éloignée, etc., qui éventuellement vient, etc. Donc, il y a des gens qu'on ne connaît pas. Des gens du village, si vous voulez, ils voient des gens qu'ils ne connaissent pas. Alors, bon, c'est vrai que c'est l'oncle de celui-là, mais je ne savais pas que c'est l'oncle de celui-là. Donc, les explorateurs, ils ont pu passer inaperçus grâce à ça. Donc, il fallait quand même interpréter ça de cette façon-là, c'est-à-dire en réalité. Il fallait interpréter les choses en disant qu'Hachem était en train de les protéger de façon surnaturelle et aussi de façon assez énorme, parce que il y a des gens qui vont mourir pour que les Bnei Israël passent inaperçus. Ce que ça veut dire qu'il y a des enterrements partout. Il y a des enterrements qu'on n'attendait pas. Mais si on ne les attendait pas, alors pourquoi ces gens sont morts? Sont morts. Il y a eu plus de morts que les statistiques. Le laisser entendre. Donc, je veux dire qu'il y a des gens qui sont morts pour que les Israël passent inaperçus. Donc, ça veut dire qu'il y a une Ashgaha à l'Hachem, déjà. L'Hachem les prend en charge. Déjà, dans l'opération, l'espionnage. Mais bon, il fallait de l'imagination. Et à la limite, on pouvait penser ça si on posait d'emblée, c'est sûr que ce qui se passe, c'est pour notre bien. Hachem ne nous a pas envoyé, même s'il n'était pas chaud pour qu'on y aille, mais enfin, Hachem ne nous a pas laissé aller espionner, alors que c'était mauvais pour nous, quoi. Si c'était pour nous tuer, on pouvait nous tuer tout de suite. Il n'y a pas besoin de nous faire mourir là-bas, que les explorateurs, c'est les gorilles, pardon. Donc ça veut dire qu'en réalité, pour interpréter convenablement, il fallait déjà décider que Hachem s'occupe de nous positivement. Alors ici aussi, ici, c'est vrai que marcher pendant 3 jours, même si c'est facile, etc., bon, de façon ininterrompue, c'est ce qu'ils ont dit. On était fatigués, on n'a pas pu s'arrêter. On aurait bien voulu se reposer, faire un jour de marche, un jour de repos, un jour de marche. Ah non, il a fallu faire tout d'une traite. Voilà, c'est ça leur prétexte. Donc, trouver un prétexte. Et donc, pour que ça marche, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent pas dire ça, simplement. Ils veulent qu'Hachem les salutine. Ouais. Donc, ils savent très bien que c'était pour leur bien, en réalité, et que c'est ça qui va mettre Hachem en colère quand on interprète négativement ce qu'il a fait pour le bien. Bon. Donc ça, ils le savaient, et c'est ce qu'ils ont voulu faire. Ce qu'ils ont obtenu, d'ailleurs. Ça a marché, Hachem s'est mis en colère contre eux. Alors ensuite, Vaïtsak ha'am el Moshe. Donc, quand ils ont vu le feu qui était là, ah, j'ai pas lu le Rashi, Miktsé ha'Mapaneh. Alors il y a plusieurs explications. Qu'est-ce que c'est l'extrémité du camp? Là qu'il y avait le feu. Alors, Rashi donne un premier pshat, il dit, de Muktzin Shebahem, le Chifloute, Elu Ereva. C'est-à-dire, le feu s'est déclenché chez ceux qui étaient pas vraiment avec l'Ebné Israël, c'est-à-dire le Ereva. Ben, la première chita qui disait que le fameux Ereva, là, ceux qui ont accompagné l'Ebné Israël, quand l'Ebné Israël sont sortis d'Égypte, ils étaient avec les Israël, mais ils campaient pas au même endroit. Ils ont à l'extrémité du camp. Et c'est là-bas que le feu a pris. Enfin, le feu est tombé là-bas. Hachem a envoyé le feu là-bas. C'est un premier chat. Et Rashi ramène un deuxième chat. Rabbi Shimon ben Menassi Omer, Miktsidim Shebahem ou Bagdolim. C'est-à-dire que le feu a pris à l'extrémité du camp. Qui est-ce qui était à l'extrémité du camp? Ben, les chefs, les plus grands du clan d'Israël. C'est-à-dire, les grands du clan d'Israël sont responsables. Le feu a pris là-bas, enfin, a frappé là-bas parce que c'est eux les responsables. Ils auraient dû expliquer au peuple qu'il ne fallait pas récriminer, etc. Alors, on a donc deux pshatim complètement différents. Un pshat qui dit que toute cette histoire, c'est d'une certaine manière la faute du Erevrav. Alors, que ce soit le Erevrav qui se soit plaint, ou que, comme on avait vu, je voulais réfléchir sur le Erevrav, je vous ai dit qu'il y avait une chita qui disait que le Erevrav, la présence de cet élément étranger dans le peuple d'Israël, a déteint sur l'Ebné Israël, que c'est pas eux qui faisaient le mal, mais leur façon d'être a déteint sur l'Ebné Israël, et l'Ebné Israël ont commencé à se conduire mal. Et donc, c'est le Erevrav, mais c'est le Erevrav du fait qu'ils sont là, ils étaient là, ils étaient un contre-exemple permanent, parce que c'est des gens qui effectivement se sont ralliés au Bnei Israël, mais qui n'étaient pas du tout, eux ils voulaient simplement être libres, ils ne voulaient pas accepter toutes les règles du jeu que Boko a imposé au Bnei Israël. C'est les Égyptiens, les gens qui ils ont profité de la possibilité de sortir d'Égypte. Un peu comme au moment de l'Union soviétique, les seuls gens qui pouvaient sortir de l'Union soviétique, c'était les Juifs. Ils ensuite étaient expulsés. Alors, ils étaient très maltraités, mais eux, ils pouvaient sortir. Difficilement, mais ils pouvaient sortir, alors que les autres ne sortaient pas du tout. Les autres ne pouvaient pas absolument pas sortir. Je me souviens très bien que on était en mathématiques, des fois on voulait inviter les gens, alors on invitait les professeurs, on disait on veut que lui suive celui-là, celui-là. Les Russes, ils n'envoyaient jamais ce qu'on demande. Bon, ils nous envoyaient les professeurs, mais pas ce qu'on avait demandé. Sauf un type qu'ils ont envoyé, Andriagin, qui était un géant mathématique. Un type qui était aveugle, qui a appris les mathématiques aveugle, qui était un génie, quoi. Un grand antisémite. Lui, il pouvait sortir, mais bon, lui, il n'y avait pas de risque, mais lui, c'est sûr qu'il allait revenir. C'était très bien vu le pouvoir, etc. Donc ici, on a deux platines, ou bien c'est les éléments étrangers qui ont une influence, ou alors c'est la responsabilité des chefs. Et donc, bon, à ce moment-là, ils ont Vaïtsak Ha'am El Moshe. Ils ont crié en direction de Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire Vaïtsak Ha'am El Moshe? Rashi dit, pourquoi ils sont tournés vers Moshe? Ils savaient bien que c'est Hachem. Ils avaient voulu provoquer Hachem, et le feu, c'est le feu d'Hachem. Pourquoi ils sont tournés vers Moshe? Qu'est-ce qu'ils veulent de Moshe? Alors Rashi rapporte une parabole. Rashi dit, c'est comme le roi, c'est un roi de chair et de sang, qui s'est mis en colère sur son fils. Et le fils, bon, il voulait bien essayer de retrouver une situation agréable auprès de son père, mais il ne pouvait pas parler à son père. Le père s'était tellement mis en colère contre lui, ça se trouve, il a eu beaucoup de voix ou n'importe quoi, des trucs qu'on dit quand il faut pas le dire. Bon, donc, qu'est-ce qu'il a fait, le fils? Alors, il est allé à l'art, à Ben Etzel, ou à Boshen Aviv. Il est allé chez l'ami du roi, son père. Vers Marlo, et il lui a demandé, il lui a dit, c'est ou Bakesh Anaï, mais Abba. Va plaider ma cause chez mon père. Parce que toi, tu vas pouvoir commencer à parler. Moi, je pourrais même pas ouvrir la bouche. Tu vas pas me recevoir du tout, mon père. Là aussi. Ils ont compris qu'ils pouvaient pas demander quoi que ce soit à Hachem. Mais quand même, ils voulaient quand même que le feu s'arrête et que, alors ils sont allés chez Moshe, qui est considéré comme l'ami de Hachem, si on parlait. Ils ont demandé à Moshe d'intercéder. Et c'est ce que Moshe a fait. Moshe a prié, il fallait le Moshe et la scène. Vatishka ha'esh. Et le feu s'est éteint. C'est ça. Ça a marché. Alors après, il y a un verset que je ne sais pas interpréter. Enfin, j'ai du mal, peut-être vous aurez une idée. Regardez le verset d'après. Le verset d'après, il dit, Vaikra shem ha'makor ma'u tavera. Qui va à Vam et Chachem. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu a nommé cet endroit-là Tavera, incendie, si vous voulez, parce que le feu a pris parmi eux, c'est-à-dire parmi les Bnei Israël, le feu d'Hachem. Et je me suis demandé d'abord, c'est quoi cette histoire de. Il va donner un nom à une lune dans le désert, tu vois quoi? C'est quoi ça? Il a mis un écriteau, Tavera, 80 km/h, C'est quoi? À quoi ça sert? Ils vont plus jamais passer par là-bas. C'est dans le désert. C'est le désert. Ils sont sortis du désert, là. Ils sont ou dans une partie du désert. Il y a un endroit qui s'appelle Tavérable. À quoi ça sert? Et surtout, ce qui me, à la limite, que Moshe Rabbeinu ait décidé d'appeler ça Tavérable, je comprends pas très bien, mais ça me dérange pas. Mais qu'il y a un passage dans la Torah pour écrire ça, alors ça, je comprends rien du tout. Je sais pas. Je suis preneur de toute explication acceptable. Bon, c'est moi qui dirais que c'est acceptable, si vous avez des idées, je comprends que l'idée élémentaire qui vient, c'est quand tu l'écris, c'est une façon de mettre fin au sujet. Bon, ça veut dire, voilà, c'est terminé. Et on en a terminé, on va le nommer, voilà, c'est comme si on avait enterré là le problème de Tavera. C'est peut-être ça que Moshe Rabbeinu a voulu faire. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il fallait que la Torah nous le dise? Ça, je sais pas. Et est-ce que c'est une leçon que pour mettre fin à quelque chose, c'est bien de l'écrire, on termine, quoi, c'est une façon de régler le problème. On l'a mis dans un rapport, ensuite on met le rapport dans un tiroir. Ouais. Je veux dire, on a fini avec ça. Mais bon, je sais pas si c'est vraiment ça de ça qu'il s'agit. Et surtout, pourquoi faire ça dans le désert? Et pourquoi la Torah? Qui quand même, la Torah, elle est assez avare de ses mots. Elle a pris tout un verset pour me raconter ça. Qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est sûr que c'est une leçon, parce que sinon ça ne serait pas écrit dans la Torah. Mais le problème, c'est quelle est la leçon? J'ai pas encore trouvé de... J'ai pas bien regardé le Midrash encore, mais Midrash, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Je sais pas dire... Bon, c'est une question, hein. On a le droit d'avoir des questions.
Ça permet pas de définir la faute, c'est-à-dire la faute, elle a eu lieu à tel endroit, à telle époque.
Oui, mais on s'en fiche, je veux dire.
Bah, c'est important de se rappeler, et ça aide à se rappeler, ah oui, c'était là, mais...
Peut-être. Pourquoi est-ce qu'on nomme l'endroit en question, surtout que c'est pas un endroit. C'est-à-dire, si c'est une ville, il va baptiser la ville ou le village, etc. Mais on est dans le désert.
Il y a quand même un passage, trois fois le terme de la Tiba. Il y a trois fois le mot Tiba dans le passage. Est-ce qu'il n'y a pas une insistance ici pour dire que la couleur de Shem est très forte?
Ah oui, non, bien sûr, c'était.
C'est.
Elle était très, très, très forte.
C'est pas une couleur. Et donc, si on remonte à la source, la plainte, c'est quelque chose d'assez grave.
Mais c'est gravissime. Ce que je voulais. En fait, j'ai tellement parlé que... Mais en fait, ce que je voulais voir avec vous, c'est ce qui se passe là. Ils ont cherché un prétexte pour se défiler. Alors, bon, il y a encore des choses à dire là-dessus, mais je voulais d'abord voir avec Davar avec vous.
Il y a un vineur qui est cité par Vogue, qui dit que, avec le que c'est le feu qui avait brûlé en eux, les avait consumés, eux.
Ce qui fait c'est sûr que
penser, malheureusement, à des prédécesseurs.
Il y a un problème de grammaire dans ce verset, parce qu'il m'a dit Vara, Vam,
ouais.
Et Jachim.
Ouais.
Si c'est Vaïkrachem, Amako, Mahou, Tavera, alors ça veut dire que c'est là-bas, à cet endroit-là, que le feu. Mais le passage qui ne dit pas que le feu a eu lieu là-bas, le feu a eu lieu en eux,
oui,
parmi
c'est ça.
Les Israël.
En eux-mêmes, qu'ils les avaient eux consumés.
Vous pouvez dire en eux-mêmes, a priori, ils ne sont pas morts.
Ah, c'est pas moi qui dis ça, c'est Wiener.
Le feu a lieu dans Bam, ici c'est pour le clan Israël. C'est le peuple. Et pourquoi ils sont très présents, le peuple, c'est un âme et c'est singulier.
Ouais.
Du coup, maintenant, on parle d'eux aussi au pluriel. Ça, c'est pas, tout ça aussi, ça fait partie de la question. Alors, la Mecque d'Avar, il dit la chose de la manière suivante. On va reprendre la Mecque d'Avar un peu, parce que bon, c'est toujours un peu original. Alors, il explique le mot « ra ». On a vu que « mit onenim ra ». « Shelo aya atoana shechaser lahem tov kanshe atava » Et là, c'est « yesh lahem ra ». Il ne disait pas qu'il manque de quelque chose de bien. Il disait que on leur donne du mal. C'est pas la même chose de dire on n'a pas, on voudrait bien ce bien-là, on aurait bien envie de manger des steaks aux frites. D'accord? C'est ce qu'ils vont demander. Non, c'est pas ça. Ils disent, on est mal. On est mal parce que on n'a pas de viande. Ils vont partir sur la viande. Mais, velobier amikra atoana. Oh, le verset ne donne pas vraiment d'argument. Et dans le Cypri, commentaire à l'Afrique, donc, il reste Shaya Aïlouch, derrière Gimel Yamim, caché à l'air. Le Cypri dit que, c'est un peu ce que Rachid dit, c'est que d'avoir marché 3 jours, c'est ça, ça nous a fait mal. On a mal, on n'est pas bien parce qu'on a marché 3 jours. Enzem, en, Tavata Aspasouf. Aspasouf, c'est. Mais plus bas, on va parler de la notion de Tava. Peut-être que je devrais lire quand même le verset avec vous. Le verset d'Alet. Prenez le verset d'Alet. Tout à coup, il y a un nouveau personnage qui arrive là-dedans. Il s'appelle Veha Asaptou, un cher de Kirbo. Le Asaptou, dans le mot Asaptou, vous entendez. Sap, Asap. Sap, c'est comme Moussa. C'est l'ajout. Ceux qui sont venus s'ajouter, c'est-à-dire, en fait, c'est le Révra. Rashi va dire que c'est le Révra. Donc, le Révra, Asher Bekirbo, qui était au sein des Bnei Israël, qui était donc mélangé avec les Bnei Israël, Itaavu Taava. Ils ont désiré du désir. Viachou, Vaïfkou, Gam, Bnei Israël. Et là, ils sont mis à pleurer, mais les Bnei Israël aussi, ils ont pleuré avec eux. Vaïomrou, Mia, Kine, Lubasa. Ça s'est exprimé leur, voilà. Qu'est-ce qui va nous donner à manger qui va nous donner de la viande? Ils ont dit, ils parlent de viande, mais ils disent, Zaharu et Kazaga, nous sommes souvenus des poissons. Daga, a priori, c'est les petits poissons, mais c'est l'ensemble des poissons. Asher Nochal de Mitzrayim, Finan, que nous mangions en Égypte gratuitement. Et il y avait avec ça, on mangeait un kishuyib, des concombres, abatrim, pastèque, khatsir. Le khatsir, c'est du poireau, abatselim, des oignons, de l'ail. Au début, je pensais que c'était la bouillabaisse qu'on faisait. Mais après, on va voir que c'est autrement. C'est-à-dire qu'en réalité, il se rappelle du poisson, mais ce qui est cité là, ce sont les choses qu'on mangeait avant le repas. On mangeait avant le repas, des concombres, de la pastèque. Par contre, le poireau, les oignons et le truc, il fallait manger avec du pain, parce qu'on ne peut pas manger ça comme ça. On mangeait en apéritif, il mangeait la pastèque et les concombres. Il y a une personne dans le Shiur des femmes qui a fait remarquer que C'est de, tous des trucs qui contiennent beaucoup d'eau. Attends, maintenant on a Fiemri et Vécha. Et nous, on est complètement desséchés maintenant. Et le col, Bilti et la manne, il y a rien, on n'a rien à manger de tout ça. Il n'y a pas de poireau, il n'y a pas, y a pas de melon, il n'y a pas de pastèque, il n'y a pas de concombre, etc. Et tout ce qu'on a dans le repas, c'est ce qu'on attend, la manne, la manne, la manne, la manne le matin, la manne le soir, la manne. Lire, mais on va revenir sur le mec d'abord. Donc, le rat dont il se plaignait, le mal dont il se plaignait, d'après le Sifri, c'est d'avoir dû marcher 3 jours sans s'arrêter. Mais du coup, si c'est ça, ça n'a rien à voir avec ce qui est après. Que le rêve, ça, ils ont demandé de la viande. On demande on veut de la viande, ça n'a rien à voir avec les 3 jours de marche. Le Osné Hachem, le Kamam Komot, écrit le Osné, à plusieurs endroits, dit-il, quand on parle des oreilles, à Mashmaout, Sheayou, Nishmaïm, la Shomea. C'est pour dire que on a réussi à se faire entendre de celui dont on voulait qu'il nous entende. C'est ça que ça veut dire ici. Comme a permis ma diouk chez Iber Belahash, chez Magia Achlet le Osnab. Et la Kamana Sharia Ashrina Shora Israël. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ici? Ils veulent dire qu'il y avait présence, le pasouk dit, il y avait présence d'Hachem dans le clan Israël. Par conséquent, Ishumachi, Tekel, que chez Dibrou, Ayak Moshe Mdabrim Beoznam, quand ils ont parlé, c'est comme s'ils avaient parlé à son oreille. Parce qu'il y avait la présence d'Hachem. Ishumachi, Paga Bahem, Aon Eshbiat. Et c'est pour ça que la sanction est venue aussi immédiatement. Tout se fait en direct, en quelque sorte. L'okmo d'Ichtiv, le Dorot, qui t'étse et machané à l'olbecha, nishmarta mikodavara, on dit quand tu feras la guerre contre ton ennemi, tu feras bien attention que dans le camp, il n'y ait pas de saleté, etc. Le pasouk dit, là-bas on dit, ben iré, becha, erman dava, de craindre qu'Hachem voit une conduite qui soit une conduite donc sexuelle qui n'est pas acceptable, le charme apparaîtra et Hachem ne t'accompagnera pas, quoi. Hachem ne va pas aller avec toi. Et là-bas, la sanction ne sera pas immédiate. Et là, le meleïou de Soukhanim, ça veut seulement dire qu'ils vont être en danger pendant la guerre. Ça veut dire que dans le désert, Akadosh Baruch Hu n'a jamais abandonné vraiment les fils d'Israël. Et donc, Kvarifia Hashem, le Moshe, Hashem avait déjà promis à Moshe au moment du Vaudor, Hashem En, Hashem Erkeu, Iyu, Panab, Olchim, Imaen, que d'une certaine manière, Hashem s'est engagé, bon, là, je vais quand même avec vous. Même si vous êtes conduit tellement mal, que je devrais en fait vous laisser tomber, et Israël après le Vaudor, Hashem aurait dû le laisser tomber. Il n'a pas laissé tomber, il a dit, je continuerai quand même avec vous. Mais alors, malgré tout, donc la Milatadine, elle a quand même dû les frapper. Et donc, Pena Khalkha Banderer, de peur que effectivement il t'attaque en chemin, comme on a dit. J'ai expliqué plusieurs fois dans la parchat qui t'essaie, non pas qui t'essaie, pardon. Velo, oui, filato shel Moshe Az, la shi yefshar lechalot chaz v'shalom shum ofan. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la prière de Moshe n'a pas marché. C'était trop disqualifié, sauf qu'un thème s'était quand même engagé à ne pas détruire complètement le peuple d'Israël. Parce qu'en vérité, après le Vaudor, Hachem avait dit qu'il allait détruire le peuple d'Israël. Ouais. Laisse-moi, je vais les détruire et je vais commencer un autre peuple d'Israël avec toi. Ce qu'il avait dit avec à Moshe. Moshe n'a pas été d'accord. Et donc, à cause de pourquoi continuer avec le peuple d'Israël. Mais je vous ai déjà dit que, après le Gaon, Hachem a accepté, c'est un sursis. C'est-à-dire, la faute du Vaudor, elle a entraîné un sursis. Il y avait un sursis. Hachem n'a pas réalisé ce qu'il avait dit, qu'il allait détruire le plan de sang. Mais l'épée de Damoclès était là, et le sursis est tombé au moment des explorateurs. Donc, quand et là non plus, après, je ne pourrais pas complètement détruire le peuple d'Israël, il n'a détruit que la génération des gens qui étaient adultes au moment de la sortie d'Égypte. Et seulement les hommes, parce que les femmes ne pouvaient pas participer au Vaudor. Par conséquent, ils n'ont pas détruit, mais ça veut dire que le peuple d'Israël qui est entré en Israël, on en avait déjà parlé, il est entré et démographiquement, il était complètement déséquilibré. Parce qu'il y avait un peuple de veuves. Et les mères des jeunes, là, qui eux entraient, maintenant, ils n'avaient pas 20 ans au moment de la sortie d'Égypte, eux ils sont pas fautifs, mais les pères sont tous morts, tout le monde est mort, sauf Caleb et Joshua. Bon, alors ici, voilà, ils se sont tournés vers Moshe, et bon, alors auparavant, le feu va t'offrir l'Ixia Machane. Le feu avait brûlé à l'extrémité du camp. Comment est-ce qu'il lui l'entend? Il dit qu'Asher yassa esh, il connaît chaque kodashim, bahara bekse amachane asamuch le mishkan. Quand il dit le, d'où il est venu le feu, il est venu du kodesh chaque kodashim. Saint des saints, le feu, il est venu du Mishkan, le Kodesh HaKodashim du Mishkan. Et il a brûlé au voisinage du Mishkan. Mais il dit que le Ktsia Machane, pour lui, c'est le voisinage du Mishkan. Enfin, comment? Ou Beod, lo ala Haesh, ala, il palel Moshe, Matishaka Haesh. Et avant que le feu ne se propage plus, Moshe a prié et le feu s'est arrêté. Alors, le drache sur le verset Vikseh Bektineham, le Kitseh Amachane, l'extrémité du camp, au lieu de Kitseh Kouf Tzadikhe, c'est Kitsineh, c'est-à-dire le chef. Le Katsin, c'est le chef, chef de militaire ou autre, et Kitsinim du peuple. Le peuple a pris, non pas dans l'extrémité du camp, mais dans les chefs du peuple. Et ça va très bien parce que les plus grands étaient le plus proche du Mishkan possible. Et ensuite, le verset qui dit le Aspasou, Itavu Tahava, ils ont désiré du désir. Eux, le nous à l'Eva. Le Révra, ils ont pas, ils se sont pas plaints du mal. C'est les Bnei Israël qui sont pleins du mal. Eux, ils sont pas pleins. Et là, je fais pas ça, ta'ava beta nougebasa. Eux, ils se sont pleins, si déjà on se plaint, on a trouvé une bonne raison. D'accord? Il leur manquait l'envie de, il n'y avait pas de désir de viande. Et par conséquent, il n'y avait pas non plus le plaisir de manger de la viande, c'est-à-dire de la manne qui avait le goût de la viande. Ça n'avait aucun, ça leur donnait aucun plaisir. Donc leur problème, c'est on mange, on est nourri, mais on n'en jouit pas. Et mais nous, on veut jouir de la vie. Quoi. On ne veut pas survivre, on ne veut pas simplement vivre. On veut jouir, on veut manger des choses qui nous apportent du honneur, de la jouissance. De l'eau, le kulam aya aman, utam yafe. Il dit ça même, le maseret yuma. Dans la Gemara, dans Yuma, on dit que tout le monde ne trouvait pas la manne délicieuse, quoi. Enfin, tout le monde n'était pas vraiment satisfait de cette manne. La manne, elle pouvait avoir le goût que tu voulais, mais il y avait des gens qui, en particulier eux, ça leur, si vous voulez, qu'est-ce qu'ils vont dire après sur la manne? Ils vont dire que c'est l'ethema cloquel. Ils vont dire cloquel, c'est construit, ça s'écrit cal, cal. Ouf, la mette, ouf, la mette. C'est-à-dire super cal, super léger. C'est-à-dire que quand tu mangeais avec la, tu mangeais la manne, tu étais rassasié, mais tu n'avais pas la peau du ventre bien tendue. Il y avait pas, tu ne te sentais pas vraiment exister. Comment on se sent exister quand manger la quatrième assiette de chunks, ça va. Mais eux, ils se disaient, non, mais on ne se sent pas exister. Il n'y a pas de jouissance. Il n'est pas content. Quoi. Donc, Véachou va y trouver Gambel Israël. Un fargab, Shaya Lahem, Aman, Moutam Yafé. Les Israël, eux, la plupart d'entre eux, pour eux, la manne, c'était quelque chose qui leur donnait des satisfactions. Mais comme ma com amrou, mi yochlenu basar. Néanmoins, ils ont participé et ils ont dit aussi, mais qui va nous donner de la viande? Shurikar anaat seuda. La viande, c'est ce qui donne la jouissance du repas. Il y a un midrash, Rabba, qui dit comme ça. Que Esav, il a dit à son père, Yitzhak, Ma achilcha, qu'est-ce que tu veux que je te donne à manger? Parce que le midrash raconte que Esav, il était sans arrêt en train de donner à manger à son père. Kivan chez Iskir Bassa, Miyad Bacha. Dès qu'il a mentionné la viande, immédiatement, il a pleuré. Ça veut dire, bon, il a compris que quelque part, d'avoir une jouissance avec la viande, c'est quelque chose de trop matériel, quoi. Quelque part, c'est pas vraiment spirituel, quoi. Donc, ils se sont plaints de ce qu'ils avaient en Égypte, Pinam. En Égypte, ils mangeaient tout ce qu'ils avaient énuméré là, gratuitement. Ça veut dire gratuitement. Ils étaient des esclaves, alors ils étaient nourris, parce que, mais pour qu'ils puissent travailler. Mais ce n'est pas gratuit. Donc, lui, il explique comme ça. Il dit que Enkol, comme il disait, il n'y a rien. C'est-à-dire, l'Ifné Amazon. On n'a rien à manger en apéritif avant le repas. Et quant au repas, c'est toujours la manne. Et le Ramban explique Shango, Afinu Haman Shano Chayimbo. Il Donc le Ramban il dit c'est pas satisfaisant la manne. Parce qu'on est toujours en train de, il faut dire comme lui il le dit, que en fait il se plaignait, ce qu'ils disent que de nos, ils n'ont jamais chez l'autre tamou miyemehem, ça voulait dire itavu tava ayumitra min, ils protestaient. Il disait du mal de la manne, car il y aurait de cholium. La manne, elle tombait tous les jours. Et tous les jours, on devait se demander est-ce qu'elle va tomber aujourd'hui. Et où est-ce qu'elle va tomber? Parce qu'elle tombait plus ou moins proche de la demeure de chacun, en fonction de son niveau spirituel. Donc, c'était insupportable. Tous les jours, on te disait exactement, voilà, maintenant, tu as régressé. Donc, ils auraient voulu qu'on leur donne la manne une fois par an. Et voilà, terminé. On n'a pas besoin de demander tous les jours en train de se demander si et quand elle va tomber. Donc, il y avait des gens parmi eux qui auraient bien voulu que la manne ait tombé une seule fois. Ils ne voulaient pas être dépendants d'Hachem. Et donc, c'est ces géants-là qui ont excité tout le monde au moment des explorateurs. Ils veulent pas de miracle. Ils voudraient que les choses viennent naturellement. C'est les gens qui ne voulaient pas entrer en Eretz Israël, parce qu'ils savaient que la Hashgaha, si vous voulez, la providence en Eretz Israël, elle est encore plus grande qu'ailleurs. Je voulais dire, être dépendant d'Hachem qui nous donne la manne en permanence, c'est insupportable. Et ils n'ont pas osé le dire. Ils n'osaient pas dire qu'ils ne voulaient pas être dépendants d'Hachem. C'est pour ça qu'ils ont cherché un prétexte, une alila. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Le fond du problème, c'est qu'on ne veut pas être dépendant d'Hachem. On voudrait être complètement indépendant. Donc, ils sont tombés sur la viande. Et ensuite, quand ils étaient en train de pouvoir faire ce qu'on voulait, ultimement, qu'est-ce qui s'est passé? Après, c'est marqué, Vaishma Moshe, verset Yud, ouais, verset 10. Après l'épisode de la manne, Vaishma Moshe est un homme, Bochel Mishkapotav, Ish le Petah Paolo, Vaicha Af Hashem Meod, Bene Moshe Ra. Cette fois-ci, Hachem s'est mis très en colère. Meod, ça veut dire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Il était boré le Mishpachotav. Le peuple pleurait. Mishpachot, Mishpachot. Les sapim ou bochim, Rashi dit, par famille, se regroupaient, ils pleuraient. Les farsem, tarumotan, bugaloui. Ils voulaient exprimer leur frustration, leur mécontentement. Rabotinu Amrou, et nos maîtres ont dit que le Mishpechotam aliske Mishpechot, que quand il pleurait pas en famille, mais au sujet de la famille, en fait. C'est-à-dire, al arayot anesarot lahem. Pourquoi ils pleuraient? Ils pleuraient parce que, quand ils étaient bnei Noach, certaines femmes, très très proches, leur mère, leur sœur, etc., étaient interdites en tant qu'inceste. Et avec la Torah, dans la parasha de Kedoshim, la parasha de Kedoshim, on voit toute une liste d'arayot. Toute une liste de femmes qui leur sont interdites, ou d'hommes qui sont interdits à ces femmes, c'est complètement symétrique. Et donc, ça veut dire que des femmes de la famille, un peu plus lointaine, leur devenaient interdites. Et ils pleuraient sur ces femmes qui leur étaient interdites, sur les hommes qui leur étaient interdits. Ça veut dire ce qui est, disons, si on voulait, on pourrait dire que les harayot, c'est une extension de relations du type incestueux, disons, au sens large, très large du terme. C'est ce qu'ils veulent, quoi. Ce qui leur manquait, enfin, ce qui leur manque désormais, à partir du Sinaï, ce qui leur manque, c'est les relations avec ce genre de femmes. Des femmes proches, peut-être avec lesquelles c'était relativement facile d'avoir des rapports, parce qu'elles étaient dans la famille, quoi. On n'a pas besoin d'aller chercher à l'étranger, quoi, ou l'étrangère. C'est-à-dire que, il y a toujours eu, ça, le problème de l'inceste, il y a toujours le problème de savoir est-ce qu'on choisit, d'avoir des relations, si vous voulez, à l'intérieur, ou est-ce qu'on est endo ou exogamique? Ça, c'est un problème, ce problème de endo et d'exogamique. Je vous ai dit, je crois, que c'est un problème dont je pense qu'il existe déjà au moment, c'est le problème de Caïn et Abel déjà. Parce que la lutte entre Caïn et Abel, elle est pour la troisième jumelle. Vous vous souvenez, avec Caïn, il y a deux jumelles qui sont nées. Avec Abel, il y avait deux jumelles et une seule jumelle avec Caïn. Donc maintenant, chacun épouse sa jumelle, et c'est comme ça. Donc le problème, c'est qu'il y en a une en plus. Qui va épouser la troisième jumelle? Est-ce que c'est celui qui est né avec elle? Ou est-ce que c'est le frère de celui-là? Donc, est-ce que c'est endogamique ou exogamique, déjà? Et donc, ça, c'était la lutte entre Caïn et Abel, déjà. Et donc, vouloir plus de rapports possibles avec des femmes, plus de femmes de la famille, c'est-à-dire vouloir récupérer l'endogamie. On se marie aussi avec des étrangères, mais au moins celles qui sont à nous, elles sont à nous. C'est-à-dire elles sont possibles au maximum, quoi, avoir des rapports avec elles. Et c'était ça le fond de leur problème, finalement. C'est la dernière chose qui est dite. Après avoir dit on veut de la viande, on veut ça, on veut du désir, on veut désirer du désir, etc. Et maintenant, voilà, il y a un problème aussi au niveau des relations sexuelles à l'intérieur de la famille. Donc là, je suis interdit. Donc c'est là-dessus que portait tout le. Même le nom dit en quelque sorte. Ça n'a pas été dit, mais Bokhin Mishpochotam, en Shiramen, le tchat, c'est qu'ils étaient en famille, ils pleuraient ensemble, mais on ne sait pas, ils pleuraient pour tout le reste, pour la nourriture, etc. Mais après, les familles viennent et disent, non, Mishpochotam, ça veut dire pour les problèmes de famille, au sens où ils voulaient des relations possibles avec les femmes de la famille. Voilà, on va s'arrêter là.